Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, tout ça sans complexe. Dans notre épisode numéro 12, intitulé « César, so white », nous avions engagé une passionnante discussion avec la réalisatrice Alice Diop, qui nous avait apporté son regard sur un cinéma français encore trop peu représentatif de nos réalités actuelles. Heureusement, les choses bougent, notamment sous l'impulsion de réalisateurs et de réalisatrices non blancs et non blanches, capables d'offrir un regard frais sur la France d'aujourd'hui. Aussi, quand nous avons entendu parler d'un film français intitulé tout simplement Noir et racontant l'histoire d'un Français noir et militant, Grace et moi nous sommes dit que c'était un sujet pour Kif Taras.
Alors celui qui est à l'origine de ce film s'appelle JP Zadi, c'est notre invité aujourd'hui. Salut JP.
Salut Grace, salut Rokaya, ça va ?
Salut JP, merci d'être là.
Ouais, merci à vous de m'avoir invité.
Alors JP, tu es comédien, scénariste et réalisateur. Ton film Tout simplement Noir, que tu as réalisé avec John Wax, sort le 8 juillet sur nos écrans. Enfin déconfiné.
Exactement. À l'origine, il devait sortir le 15 avril et comme il y a eu les bails de coronavirus, là, ça a été déplacé au 8 juillet. Voilà.
Mais ce qu'on se dit, c'est que finalement, il y a un grand débat aujourd'hui en France sur le racisme et peut-être que ton film trouvera un écho différent.
Oui. C'est vrai que ça a beaucoup de résonance avec l'époque actuelle, mais bon, c'était pas voulu, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'à n'importe quel moment, n'importe quelle date où on sort un truc où ça parle des Noirs, c'est toujours d'actualité, quoi. Tellement la question, tu vois, tellement la question, en fait, en France, elle est pas réglée, quoi.
C'est clair. Tu sais, JP, peut-être que tu n'as pas écouté notre podcast auparavant, mais en fait, on a un rituel dans Kif Taras, c'est qu'on demande à nos invités s'ils se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique, moi je suis noire. Est-ce que, sans spoiler le film, est-ce que toi tu te positionnes là-dessus, JP? Comment tu te définis?
C'est une question vraiment très intéressante. En fait, le truc, c'est que j'ai pas l'impression que c'est moi qui me suis positionné en tant que noir dans cette vie-là. J'ai l'impression que c'est les gens qui m'ont mis là-dedans. Moi, je suis né à Bondy, j'ai grandi à Caen. Il y avait des Babtous dans mon quartier, tout ça. Il y avait aussi des Arabes. Mais j'ai l'impression que les gens ont insisté pour me faire comprendre que j'étais noir. Et donc, du coup, maintenant, je me positionne en tant que noir. Mais à l'origine, c'était pas mon projet, quoi.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as eu l'impression d'avoir un déclic et d'avoir vraiment réalisé que tu étais noir? Et juste pour nos auditeurs et nos auditrices, Babtou, c'est le verlan de Toubab qui veut dire blanc.
Blanc. Oui, alors, faut dire aussi que j'ai une maman qui est, faut le dire, un peu folle. Même si je l'adore, elle m'a toujours dit, depuis que je suis petit... C'est vrai que elle a insisté sur le fait. Elle me disait quand j'étais petit, c'est bien, hein, tu joues avec tes amis blancs, hein, mais n'oublie jamais que tu es noir. Et c'est pas pareil, ce sera pas pareil dans ta vie. Et moi, j'étais là, je la regardais, je comprenais, hop. Mais elle insistait beaucoup sur ces trucs-là. Oui, rigoler, mais tu es noir. Hein. N'oublie pas. Donc, le déclic, oui, c'est plus ma mère, quoi. C'est ma mère qui était très ancrée dans cette ambiance un peu de démarcation blanc, noir. Alors que mon père, lui, c'était vraiment Interville, Patrick Sébastien. Tu vois, c'est un noir, tu vois, c'est un ivoirien, mais il était plus dans la bonne ambiance, parti socialiste, tu vois. Et ma mère, elle était grave dans des trucs, tu vois, t'es un noir. N'oubliez pas, vous êtes des Noirs.
Et tu penses qu'elle a eu raison de te prévenir ?
Oui, parce que du coup, ça m'a facilité la vie. Au moment après où on commence à être confronté au racisme, tu vois, c'est quand tu commences à chercher un appart, un taf, tout ça. Moi, j'avais des potes qui étaient plutôt étonnés de, tu vois, de se rendre... Qu'on leur renvoie cette image de Noir-là, alors que moi, j'étais déjà... j'étais déjà prêt, en fait, tu vois. Donc oui, ça m'a rendu service quand même.
Et là, maintenant, t'as des enfants ?
Oui.
Est-ce que t'es plutôt comme ta mère ou t'es plutôt comme ton père ?
Ouais, malheureusement, je suis un peu comme ma mère. Je suis un peu comme... Mais mes enfants, ils sont métis. Donc, je leur dis, vous avez deux richesses. Vous êtes des Noirs et vous êtes des Blancs. Et il ne faut pas renier un côté. Le côté blanc, c'est super. Le côté noir, c'est super. Mais ils ont, je sais pas, ils ont un peu tendance à plus se prendre pour des Noirs que des Blancs. Mais je les rappelle souvent à l'ordre pour leur dire que vous êtes les deux, les frères. Calmez-vous.
Attention, please, attention, please. Je suis noir.
Grand.
Voilà. Je suis noir.
Martin Luther King.
Je suis nègre.
Malcolm X.
Je suis un putain de nègre.
C'est ça.
Il faut qu'on soit soudés. Il faut qu'on soit là.
Ta marche, c'est une initiative de dingue.
Quelle marche?
Les blancs sont interdits à ta marche.
Ils sont pas interdits.
Pas interdits, mais c'est pas conseillé.
Ils sont pas conseillés.
Ils vont s'affrapper.
Ouais. Non, ils vont pas du tout.
Mais il y aura pas une bonne ambiance.
Voilà. Je vais faire une marche, moi, de mon côté, avec les Indiens.
Soirée entre nous.
On va niquer votre marche de renom.
C'est hyper excluant.
On a des imams qui soutiennent.
Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe.
Quoi, tu vas loin.
Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams. On va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance.
Donc là, on vient d'entendre la bande-annonce de ton film, Jean-Pascal.
Oui.
Alors, peux-tu nous raconter la genèse de ce projet, comment de ce projet-là,
pas celui
d'être noir. Donc comment ça t'est venu l'idée? Combien de temps t'as pris pour le faire? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que voilà, raconte-nous le.
Bah alors l'idée à l'origine, c'était de parler du fait d'être noir en France et qu'est-ce que ça voulait dire être noir en France. Donc au départ, j'ai écrit les premiers. J'ai vers 2015 comme ça. Après, j'en ai parlé à Fabrice Eboué, qui a bien aimé le projet, qui m'a un peu accompagné dans l'écriture. Et au départ, on a été voir quelques boîtes de prod, dont je tairai le nom. Et on s'est fait, ils nous ont vraiment envoyé paître. Et je me rappelle même qu'il y en a un gros producteur, vraiment français, qui a fait plein de films et tout, qui a dit sujet sur les Noirs en France, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ça intéresse personne.
Oh là, c'est chaud.
Ouais, tu vois. Donc, et après, j'ai rencontré Gaumont, et donc j'ai écrit le scénario. Et après, John Wax, comme moi je jouais dans le film, j'avais le rôle principal, et ben j'ai demandé à ce que John Wax m'accompagne à la réalisation, parce que je trouvais ça hyper dur pour un premier film de jouer, réaliser en même temps. Et donc finalement, après, le film, c'est devenu le film de John Wax, le mien, Fabrice et aussi Kamel Gemra qui a écrit le scénario avec moi.
Déjà dans Les Craignos, qui est une série que tu as créée, ton personnage Ernesto disait il y en a marre des films de bobos sur la banlieue, des films safari. Tu vois, est-ce que.
Vous ne voyez pas la tête de JP là, mais.
C'est vrai, sorti de ta bouche.
Hein.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que tu avais cette phrase en tête quand tu as fait ton film ?
Non, pas du tout. Non, vraiment, quand on était en train de faire Tout simplement Noir avec John Wax, vraiment l'objectif du film, c'était déjà rigoler et dire ce qu'on avait à dire. Et en fait, le film, il a été fait aussi, je pense, dans cette énergie positive d'avoir enfin la parole pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. C'est pour ça qu'il y a plein de sujets qui sont abordés, parce que tu dis « Ah !» Voilà, il y a Gaumont qui me soutient là-dedans, tout le monde a l'air OP, les acteurs sont OP. Vraiment, la dynamique du film, c'était s'exprimer et s'amuser. Parce qu'on savait qu'on avait... C'était une chance pour nous de... D'ailleurs, il y a plein d'acteurs qui m'ont dit pendant le tournage, mais comment t'as fait pour vendre ce scénario, JP? mais je pense que c'était sur l'énergie. Et voilà, l'énergie du truc, c'était vraiment s'exprimer, l'enthousiasme, le bonheur, la joie. Tu vois.
Et il n'y a aucun moment où les personnes qui t'accompagnaient, les gens qui finançaient le film, ont eu peur ou se sont dit, oula, qu'est-ce qu'on a fait? Ou ont essayé de
En tout cas, ils ne me l'ont pas transmis. Peut-être qu'ils ont eu cette peur-là, mais ils ne me l'ont pas transmise. Ils ont toujours été Gaumont par l'intermédiaire de Marc Vadet et Franck Weber. Ils m'ont toujours accompagné, même quand il y avait des mauvaises nouvelles, quand il y avait des... Parce que ça n'a pas été quand même... Tout le monde n'a pas mis de l'argent dedans. Il n'y a que Canal+ qui a mis l'argent dans le film.
D'accord.
Canal+ et Gaumont. Donc, je tairai les autres.
Donc, mais t'as pas eu de chaîne, d'autres chaînes.
On a été voir d'autres chaînes. Ils nous ont envoyé paître et ils nous regardaient comme si on venait de la planète, tu vois, Mars, quoi. Et donc, il y a eu quand même, voilà, y en a qui nous envoyaient pète, donc il y a eu des mauvaises nouvelles. Et à aucun moment, j'ai senti que Gaumont a baissé les bras. Ils étaient toujours à fond. En fait, ils ont compris tout de suite l'intérêt du sujet. Bien avant le. Et c'était bien avant le livre Noir n'est pas français. Enfin.
Non, Noir n'est pas mon métier. c'est la
Il y a une pro-noir pour être française et Noir n'est pas mon métier. Et t'as fait un livre.
C'est-à-dire que c'était.
Là, c'est Éric Zemmour qui s'exprimait dans ton corps.
Sors de
là.
Ce corps, Brice.
La reposition de ton corps.
Non, c'était. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'était une énergie qu'on a. C'était un truc que Gaumont a senti et que moi j'ai senti et on avait envie de le faire.
Ouais, donc finalement, il y avait vraiment un contexte où les gens se posaient des questions et toi, tu l'as senti.
Ouais, voilà.
Mais comment tu fais pour, comme tu t'as dit là, de faire un film, en même temps tu rigoles et en même temps tu portes un truc politique, parce que dans le cinéma français on a quand même l'habitude de, c'est soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire soit tu fais un documentaire que tout seul, hein, et soit tu fais une comédie pour tout le monde où justement il faut parler de rien de politique. Donc comment tu fais pour faire le pont entre les deux?
Parce que en fait déjà je pense que dans notre parcours d'ailleurs à moi et John Wax, nous on est des pauvres, on vient du peuple, tout ça et tout, donc du coup quoi qu'il arrive, où qu'on soit, on va porter ce message-là en nous, tu vois, de, je sais pas comment expliquer, ce message du peuple, de gars qui a galéré, de gars qui a eu faim, de gars qui s'est perdu dans son chemin artistique, il savait même pas pourquoi il le faisait. Donc, ce message politique-là, il est inhérent à notre personnalité, à ma personnalité. Voilà, moi, je viens d'une famille où on fait des débats sur la politique, sur Brice Hortefeux, sur Sarkozy, sur la politique en Côte d'Ivoire, les coups d'État, la France-Afrique, on est très dedans, donc je me voyais pas faire un film où j'allais arriver, oh il a pété, tu vois, ça m'intéressait pas en fait, donc du coup je trouve ça normal parce que ça fait partie de ma personnalité.
Alors, le casting de ton film est très impressionnant. Toujours le premier rôle, mais on peut y voir de nombreuses personnalités, dont Lilian Thuram, Omar Sy, Fadili Camara, Farid, Joe Starr, Ramzi Bedia, Melha Bedia, Claudia Tagbo, Cyril Hanouna, Vikash Dorasso, qu'on a reçu ici, Karine Guillaume, Lucien Jean-Baptiste, Éric Judor, Amel Chabi, Jonathan Cohen, Mathieu Kassovitz, Ahmed Silla, Riquet Boinet Soprano, et plein d'autres, dont notre ami Maboula Soumaoro.
Ah oui.
Oui,
qui, et tous, donc, jouent leur propre rôle.
Oui.
Ce que je trouve super intéressant, c'est bon, effectivement la qualité de l'affiche, mais aussi la variété des profils que tu mets en avant. Mmh. On voit tous les personnages aborder la question noire avec leur sensibilité, parfois d'une manière pas très flatteuse hein, pour eux. Hein. Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais c'est très très fort. Comment tu as écrit chacun des personnages et est-ce que tu t'es inspiré de leur personnalité dans la vraie vie?
Oui, en fait, alors comment ça s'est passé pour l'écriture? C'est que dans chaque séquence, je voulais parler d'une thématique. Le sujet global, c'est qu'est-ce que c'est être noir en France? Comment se positionner quand on est noir en France, tout ça. Et chaque séquence, en fait, il y avait une thématique. Donc, par exemple, la thématique d'Éric Judor, c'était la thématique du Renoir qui s'est caché de sa négritude pour s'en sortir dans la vie. Et donc, à chaque thématique, je disais, mais qui peut bien interpréter ce truc-là? Et je disais, Éric Judor. La thématique de les Noirs, les Antillais, les Africains, les frictions qui pouvaient y avoir et tout. Je me suis dit, qui peut bien interpréter ça? Bah, je me suis dit, ah ouais, Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué. En fait, c'était plus par thème. Les acteurs, c'est venu après pour combler les thèmes, tu vois.
D'accord.
Et donc, finalement, l'écriture, elle a été simple. C'était qu'il fallait écrire le récit. Avec Kamel Guémara, on s'est pris la tête. On a écrit un récit avec un début, une fin, c'est-à-dire le mec qui veut faire la marche. Et à la fin, est-ce qu'il y arrive ou pas à faire sa marche? Est-ce qu'il y aura du monde? Et entre toutes ces étapes-là, il y avait des thématiques qui me... Voilà, les Arabes. Les Arabes qui voient que le buzz commence à monter autour de ma marche, tout ça, ils veulent se greffer au bail. Et quand les Arabes veulent se greffer au bail, il y a le juif aussi qui veut se greffer au bail. Tu vois, donc j'ai choisi les personnalités qui correspondaient le plus à des thématiques, quoi. Et quand je faisais mon truc sur au tout début du film, il y a plein de mini vidéos que j'ai fait sur internet pour faire du buzz et tout, et mon personnage qui est plus, on va dire, qui est animé par le fait de militer, mais qui est attiré aussi par le fait de briller et d'être dans la lumière. Je sais pas si je spoil le film, mais à un moment, il fait un truc sur l'esclavage et il fallait une militante qui vienne me voir et qui me dise « Mais toi, t'es un malade, c'est pas marrant ce que tu fais. » Ben là, je voulais Maboula, tu vois.
D'accord.
En fait, voilà, il y avait des thématiques et je mettais les personnalités qui correspondaient au truc.
Et moi, ce que je trouve vraiment, vraiment bien dans ton film, parce que je l'ai vu grâce à ta production.
Ouais. Et t'as eu du mal à dire production. Ouais. T'as eu du mal, hein.
Et il y a vraiment une épine dorsale hyper solide, classique, tu vois, d'un film. C'est-à-dire, il y a un but, le personnage a un but, il y va, il rame et tout ça.
Ça, il évolue.
Et pour, tu vois, pour aller vers son but, il a tous ses personnages qui sont hyper complexes.
Oui.
Et la complexité des personnages noirs, hein, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a l'habitude de voir, déjà, les noirs, ils se ressemblent tous. Les noirs, ils ont tous la même backstory.
Oui.
Soit c'est des gens du ghetto, soit, on les connaît, les dealers, les machins. Ouais. Et en fait, toi, dans ton récit, la complexité des personnages, elle est telle, c'est-à-dire qu'on se rend compte que personne ne se ressemble, en fait.
Exactement.
Et qu'ils ont tous des trajectoires, des parcours et des positionnements par rapport à cette... quand tu dis tout simplement noir, c'est simplifié, mais ces gens-là, ils ne sont pas tout simplement noirs.
Exactement,
en fait.
Exactement. Oui, tout à fait. Oui, en fait, le message un peu du film, c'est vraiment de dire, de mettre toutes les choses à plat et de sortir l'humanité des gens. Alors nous, dans le sens où, par exemple, dans le film, il y a Farid qui est un producteur véreux, et il y a moi, tous les deux on est noirs, mais on n'a rien en commun, tu vois. Et finalement, le film, ça raconte qu'on nous dit qu'on est noirs, mais nous, entre noirs, on n'a rien en commun, et ce qui nous rapproche, c'est plus le regard que les autres, ils ont sur nous. C'est, par exemple, dans la société actuelle, je sais pas, moi et Rokhaya, elle est noire, moi je suis noir, mais en vrai, de vrai, on n'a rien en commun, si ce n'est comment les autres nous regardent. Et c'est ça qui nous rapproche. Mais donc, le film, vraiment, le cœur du film, c'est de montrer que ce serait pas mal si un jour on arrêtait de nous voir en tant que noirs, en tant qu'asiatiques, en tant que robeux, en tant que juifs, et si on nous verrait simplement en tant qu'êtres humains. Et d'ailleurs, ça éviterait des drames comme les bails de George Floyd, Adama Traoré, tout ça, qui ont été vus comme des noirs, et donc on s'est permis de faire des choses sur eux.
C'est exactement ce que dit Pape Ndiaye, l'historien, dans son livre qui s'appelle La condition noire. Il dit que le trait commun entre les noirs en France, c'est d'être vu, perçu et traité comme des noirs. Et c'est pas tant c'est une expérience en fait collective.
Oui.
Donc c'est plus une expérience d'être vu dans un système qui met les noirs, qui les minore, que vraiment une culture ou une essence. Quoi.
Ouais.
Je trouve que tu fais complètement écho à ce livre.
Je fais écho à un historien. Hein.
Oui.
Pourtant, j'ai pas fait d'études.
Un super historien qui enseigne à Sciences Po.
Oh la vache. Merci, ça me fait plaisir.
Ta maman a bien travaillé.
Ouais. Exactement.
Et t'as pas eu de mal à convaincre les comédiens de jouer ces rôles-là? Parce que c'est vrai que tu parles de Farid comme un producteur véreux.
Ouais.
En même temps, moi, je le connais pas, Farid.
Ouais.
Mais quand je vois le personnage, je trouve que c'est ça a l'air crédible. Tu vois ce que je veux dire? Alors bon, je vais peut-être me le mettre à dos,
mais je trouve que
ça, franchement, ça ressemble à l'idée que tu dis, ah bah oui, c'est vrai que ce côté un petit peu de quelqu'un qui a une très haute estime de lui-même et qui en même temps qui a vraiment envie de briller, mais d'une manière, qui veut se poser comme une espèce de leader et tout. Je trouve que c'est crédible. Et du coup, tu dis, est-ce que ils n'ont pas eu du mal à incarner ces rôles? Parce que tu dis que ça peut être dommageable pour leur image.
Non, parce que finalement, en fait, chacun joue ce que le public croit qu'il est.
D'accord.
Et donc, je joue sur ce que le public croit, tu vois, sur ce que le public croit. Mais je te dis, je t'affirme que Farid, il est pas du tout comme ça. Farid, il est méga gentil, il est méga humble. Non, mais c'est vrai, en plus. Et en plus, c'est quelqu'un qui partage beaucoup. Tu vois, là, il a fait son comedy club, là.
Mm-hmm.
Comme je dis, son petit bistrot. Il est vénère quand je dis ça. Il a fait son Madame Sarfati, là, tu vois. Il est grave tu sais, il aide les gens, il aide les jeunes humoristes. Il aide, en fait. C'est quelqu'un, il est grave dans le partage. Et pour le coup, dans le film, c'est le gars qui est vraiment à l'opposé du rôle. Et les gens, ils ont accepté parce que finalement, c'est aussi un gage d'intelligence d'avoir du recul sur soi.
Ouais.
Et tout le monde a bien aimé, tout le monde a aimé jouer sa partition parce que finalement, il y avait un message général qui fédérait. Et franchement, ça n'a pas été si dur que ça. J'ai reçu quelques refus de personnalités dont je tairai le nom.
On va faire un épisode bonus avec tous les noms que tu vas taire.
Et en fait, il y a des gens qui n'ont... Parce que, ils n'avaient pas le second degré, ils n'avaient pas l'humour, mais je leur en veux pas du tout, ils ont le droit, tu vois, c'est leur image, c'est leur truc. Mais tout le monde, de manière générale, a accepté assez vite, quoi, franchement.
Du coup, on voudrait...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional.
Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Revenir avec Rokhaya sur pas mal des thèmes que tu abordes. Alors, oui. On n'est pas obligé de spoiler les personnages parce que
Nous, on a la chance de découvrir sans savoir ce qu'on allait voir. Et vraiment,
Alors, il y a un thème que tu abordes dans le film et qu'on a déjà abordé ici dans le podcast qui allie à la fois le sexisme et le racisme. C'est la question de la misogynie noire, qui est donc le sexisme qui vise spécifiquement les femmes noires.
Oui.
Pourquoi t'es pas très à l'aise
avec... Non, je suis très à l'aise, t'inquiète.
Qu'est-ce que tu voulais, enfin, est-ce que c'était important pour toi de l'adresser dans le film? Et quelle place tu lui donnes du coup dans ton récit?
Non, mais pour moi c'était hyper important de, comme on dit, de donner la parole aux sœurs. Tu vois, parce que on se rend compte aujourd'hui que finalement les personnes, moi ça c'est mon avis, les personnes qui donnent le plus leur avis de manière intelligente sur la place médiatique française, en vrai de vrai, c'est les meufs. Non, mais il faut pas se mentir.
Il m'a regardé en disant ça, c'est pour ça que j'ai dit merci.
Non, c'est très bien. Mais pour moi, c'était important de parler de ça et de parler aussi du fait que, je sais pas si c'est un problème ou si c'est quoi, mais il y a, c'est vrai que, l'homme noir, de manière générale, dans sa considération des femmes, quand on voit les footballeurs, quand on voit les acteurs qui ont percé tout ça, alors maintenant, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais on peut se poser la question de voir, mais pourquoi ils sont toujours avec des blanches ou des arabes, tu vois. Donc c'était important pour moi de parler de ça, de mettre ça sur la table et surtout donner la parole, mais pour que à la fin aussi je renverse tout pour montrer que finalement c'est pas si simple que ça et que tout est complexe et que tu vois.
Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le film, c'est que on n'est pas aux États-Unis et du coup c'est vrai que la question de la dynamique des couples avec notamment des mélanges qui sont beaucoup plus courants en France qu'aux États-Unis, ben c'est quelque chose de spécifiquement français.
Oui,
c'est vrai que c'est rare qu'on interroge les Noirs de France dans le contexte français. Où on va se mélanger beaucoup plus facilement, notamment dans le cadre d'unions matrimoniales ou amoureuses, alors que tu vois, aux États-Unis, ça serait posé vraiment dans l'autre terme, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, quand on regarde, par exemple, des matchs de l'équipe de France, on voit dans les tribunes. Bon, ça commence à changer un peu.
Ouais.
Ça commence à changer un peu, mais à un moment donné, frérot.
Ben, c'est vrai qu'en termes. Ou sinon, t'as aussi le truc d'hommes noirs qui se moquent de femmes noires.
Nakamura,
quand elle se fait moquer, souvent ce sont des hommes.
J'ai envie de sauter par la fenêtre quand je vois ça. Mais j'ai envie d'ouvrir la fenêtre et sauter quand je vois la facilité que des gens ils ont. Mais il y a pas que les Renois, il y a des blancs aussi qui sont ça. En fait, c'est un truc, mais laisse tomber. J'ai envie de me pendre quand je vois qu'on se fout de sa gueule. En fait, je trouve ça inadmissible. Je trouve que les gens ils se permettent beaucoup de choses quand c'est une femme noire, tu vois. Et ça m'énerve.
Et ce que j'aime bien aussi dans le film, et que c'est comme dans la vraie vie, et je trouve aussi parfois on a cette impression dans le podcast avec Rokhaya, c'est qu'on parle de choses très sérieuses, tu parles de choses très sérieuses, et puis la scène d'après, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous, on continue de vivre, en fait. On parle de ça, et puis la vie, elle continue. Donc, on n'est pas là en mode, on est bloqué là-dessus. Tu vois, ça, c'est, on est des radicaux, donc je me jette par la fenêtre. On sait que tu le fais pas. en fait, la vie, elle continue. Tu peux avoir des avis sur des choses très tranchées et faire une comédie.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, la comédie, pour moi, c'est vraiment un vecteur puissant. On remarque qu'en France aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de comédies qui sortent, après de plus ou moins de bon goût. Mais en tout cas, je dis, moi, j'ai une nature vraiment un peu déviante parce que j'ai du mal à tout prendre au sérieux. Je sais pas, quand les choses deviennent un peu sérieuses, c'est peut-être un problème psychiatrique. Je sais pas, ça m'emmerde. Je te jure, ça m'emmerde. Je suis comme Fabrice Eboué, on a le même problème. Et donc, du coup, dans ce monde-là où j'ai envie de m'exprimer, bah, fallait que je raconte ce message-là par le biais de la comédie.
Alors, il y a une question super intéressante que tu abordes dans le film, dans une scène qui est hilarante. C'est le racisme intercommunautaire entre les Noirs, les Arabes, les Juifs. Ouais. Alors, c'est un exercice super périlleux.
Ah oui, bah oui.
comment t'as fait pour l'écrire et comment tu t'es assuré justement du fait que ce qui est drôle ne soit pas perçu comme une attaque, comme une moquerie ou qui alimente pas des préjugés contre des groupes qui ont déjà de l'hostilité.
Je sais pas. En fait, déjà finalement cette journée-là, de cette scène-là dont tu parles, ça nous a pris une journée.
D'accord.
À la fin de la journée, j'avais mal à la tête tellement j'avais rigolé.
D'accord.
C'était une journée incroyable. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer comment ça se fait que c'est si bienveillant et personne n'est choqué. Pourtant, il y a des trucs hardcore qui sont dits. Et dans les projections test, les gens ils rigolent. Mais je pense que c'est parce que finalement, le fond de la discussion, il est sain, en fait. Et le fond de la discussion, il est vraiment de montrer que on peut être dans la même pièce, on peut être, il peut avoir un rebeu, il peut avoir un négro, un renoir et un babtou. On peut être dans la même pièce, on peut être amis et avoir des points de vue et des choses différentes qui se jouent. Mais comme on voit que tout le monde est ami et que l'hostilité, déjà, elle est lancée dès le début par une phrase ridicule, bon, je vais pas la dire, mais du coup, je pense que c'est plus dans le ton et dans l'énergie qui circule entre les gens qu'on voit que ouais, mais non, tu vois. Et puis, celui qui a réalisé le film avec moi, il s'appelle John Wax. Moi, j'ai un humour un peu fin. Je sais pas pour me vanter, mais moi, j'ai un humour.
Mais quand même.
Moi, j'ai un humour un peu fin, un peu, tu vois, dans la subtilité et tout. Et John Wax, lui, c'est vraiment le gros bourrin. Et donc, on a mélangé les deux humours et c'est ça qui fait que la scène, elle passe, quoi. C'est difficile de parler de la scène sans en parler.
Oui.
Tu vois.
Mais ça donne quand même une idée du thème, en tout cas.
Est-ce que, d'une manière générale, tu pourrais nous dire, en tant que créateur, en tant qu'auteur, comment tu fais pour parler de clichés en les dénonçant, mais sans les perpétuer? Parce que moi, je trouve que dans le cinéma français, dans les comédies, c'est ça. Les gens, ils sont là, non, mais on adore les différences. En fait, ils alignent, ils font une succession de clichés. Et tout ce qu'ils font, c'est de redonner un souffle à ces images-là.
Tu vois,
ils leur donnent de la
dire.
Force. Et en fait, ils sont là en promo, tu les entends dire « Non, mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment dire que c'était pas bien. »
Non, mais c'est parce que je pense qu'il y a une différence. Parce que moi, les clichés qu'eux, ils ont perpétués là, eh bien, moi, je les ai vécus. Donc du coup, ces clichés-là, ils m'intéressent pas trop, en fait. moi, je suis plus du point de vue de l'intérieur. Et donc, je pense que je donne un angle qui est autre qu'un mec qui se positionne. J'ai rien contre les gens qui ont fait « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» tout ça. Mais je pense que lui, quand il parle du racisme, tout ça, il parle toujours quand même d'un point de vue extérieur. Parce que je pense pas que lui, il ait vécu l'expérience du racisme et tout. Alors que moi... S'il y a vraiment un truc que je connais, moi, j'ai pas fait des longues études, je suis pas hyper brillant, tout ça. Mais en tout cas, le racisme, je connais, les clichés, je connais. Donc quand je me positionne à l'intérieur du truc pour en parler, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est parce que moi, je sais ce que c'est quand un mec, il me dit en primaire, je te donne pas la main parce que t'es noir, tu vois. Du coup, je sais tout ça. Donc, du coup, quand je décide d'en parler, je parle pas du point de vue de la personne qui a pas voulu me donner la main. Je parle de moi à qui on n'a pas voulu donner la main, tu vois. Donc, ça fait toute la différence.
Oui, c'est ça. Il y a pas le côté un peu bon samaritain. Enfin, on a cité qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais il y a aussi il y avait un film qui est sorti il y a quelques années, enfin il y a 10 ans plus même, qui s'appelle Agathe Cléry. Je sais pas
si
vous
la vache.
Ça, c'était vraiment fou avec Valérie Le Mercier.
Ah ouais, mon Dieu, le jour où elle se réveille en noir.
J'ai jamais vu.
Moi, je l'ai vu. C'était fou. C'était incroyable.
Ça a glissé à l'époque. Hein.
Mais grave, c'était Étienne Châtillaise. Hein.
Étienne Châtier.
Ouais, tu vois, donc c'est quand même pas n'importe quoi.
Vous allez avoir des ennemis, là, vous allez avoir des...
Non, mais
le film était chaud de ouf, tout était problématique. C'est-à-dire que la meuf, elle est raciste, elle se réveille un jour, elle est noire. Donc déjà, t'as envie de dire... Donc être noire, en fait, c'est une malédiction.
Ouais, c'est clair.
Rien n'allait, tout ouais, est... c'était ouf.
Mais
c'était
Étienne Châtier, j'ai rien contre lui, mais frérot, qu'est-ce qu'il va nous apprendre du racisme?
Non, mais c'est le film Safari que disait Ernesto dans Les Craignos.
Ah, il dit c'est
un film Safari, c'est-à-dire que les gens ils viennent et ils montrent le zoo. Ils disent le racisme, c'est ça, parce que de là où je vois, c'est comme ça que ça a l'air.
Mais ça se voulait dénonciateur du racisme, pardon, je t'ai interrompu.
Non, tranquille, non, je voulais juste dire que non, toi tu t'inquiètes, toi t'es magou. non, ce que je voulais dire, c'est que finalement aussi, je pense que c'est. Clichés-là, ces films-là vont un peu s'estomper lorsque toutes les sœurs, tous les frères, tout le monde vont commencer à se positionner et à s'intéresser au cinéma, à s'intéresser à la réalisation. Et là, ça va changer parce que tant qu'on est spectateur, ça changera pas. Alors, ça veut pas dire que c'est simple, c'est compliqué d'arriver à faire un film, à se battre, à truc. Mais là, il commence à avoir beaucoup d'acteurs un peu identifiables. Donc, si tu te mets bien, si t'es ami avec lui, tu peux bien t'en tirer, frérot. Il faut essayer.
Alors, il y a une autre scène que moi, je trouve vraiment anthologique. C'est la scène entre un acteur...
mais tu peux le dire, c'est
bon,
pas
ça
grave.
Va. Ouais, entre Lucien Jean-Baptiste et Fabrice Eboué. Donc, c'est une scène culte sur un sujet qui est la rancœur supposée entre les personnes antillaises et les personnes africaines au sujet de l'esclavage. Bah, certains sont des descendants d'esclaves déportés du continent où les ancêtres d'autres sont restés et on les voit jamais dans le cinéma, on le voit jamais dans
non.
Alors qu'on sait que ça, enfin les gens qui, enfin je sais que ça, on en parle
bien sûr, on en parle,
et donc comment est-ce que t'as imaginé cette scène et est-ce que c'est des discussions que toi tu as eues avec gens,
bien sûr non mais tout africain noir a déjà eu des discussions avec des Antillais et il est tombé des nues lorsqu'il a vu l'Antillais qui lui a dit mais moi je suis pas africain, je suis Antillais. Tout c'est arrivé à tout le monde. Et donc, du coup, partons de ce point de vue-là. Et tu vois, voilà, je me suis dit, bon, comment mettre ça en scène de façon rigolo et montrer un peu le ridicule du truc. Alors, il y a, oui, cette rancœur anti-africain, elle existe. Mais moi, ce que je dis, c'est que finalement, elle a été aussi nourrie et cultivée par les béquets aux Antilles. Tu vois, qui avaient intérêt à diviser les esclaves là-bas et à leur dire, voilà, lui, il est plus noir que toi et toi, t'es plus clair que lui. Toi, t'as droit à ça. Lui, on vous a vendu. Nous, c'est pas de notre faute. C'est vos frères africains qui nous ont vendu. Frérot, on te dit ça pendant 400 ans. Et bah, au bout d'un moment, ça intéresse. Même quand tu chattes une meuf pendant une semaine au téléphone, il y a des trucs, ça rentre dans sa tête. Alors imagine-toi un propos qui est tenu pendant 400 ans à des gens. Et bah, c'est normal que voilà, finalement, il y ait des Antillais qui aient ce discours-là. Et ce n'est pas dénigrer l'identité antillaise que de dire ça. Moi, c'est juste de dire que finalement, en vrai, de vrai, les Antillais, frère, c'est nos enfants. C'est nos petits cousins, c'est nous-mêmes, tu vois ce que je veux dire. Et donc, j'avais envie de faire une scène voilà, qui parle de ça de façon...
Alors moi, je suis hyper déçue quand même, JP, parce qu'il n'y a pas de scène sur les Asiatiques.
Ouais, il y en avait une. Il y en avait une, mais finalement... Non, il y en avait une, mais en fait, justement, ça faisait sketch. Le propre du film, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit des sketchs et qu'on voulait que ça fasse, flou entre la réalité, la fiction. On voulait que vraiment le spectateur qui regarde ça, il se dise mais c'est vrai ou c'est faux. Et donc on avait une scène où on avait aussi mis des acteurs asiatiques et finalement c'était super marrant, mais ça faisait sketch. Tu vois, et donc on a dit vas-y.
Dommage.
Ouais, on a été obligé de mais tu sais, mais il y a pas que cette scène-là qui a sauté. Il y a plein de trucs mortels qui ont sauté. Il y a plein de trucs parce que finalement, en fait, le film c'est pas qu'une succession de trucs marrants. C'est des scènes qui servent le propos et qui crédibilisent le propos pendant une heure et demie. Si je te disais, il y a des vraies têtes qu'on a enlevées, des actrices de malades, je regrette même. Je regrette même de les avoir enlevées, je te jure.
Il y aura des bonus qu'on pourra avoir.
Il y aura des
bonus.
Il y avait aussi une espèce de bande démo de mon personnage que j'ai enlevé, ou avec laquelle je me présentais dans le film, et une bande annonce, une bande démo qui était tellement incroyable, où j'avais joué dans Fatoula Malienne, j'avais fait la racaille, j'avais fait le migrant, tout ça, et on les a enlevés parce que du coup ça rentrait pas dans le récit. Donc je me suis rendu compte que aussi un film, ça m'a coupé le cœur, mais un film, faut que ce soit le récit, en fait c'est le récit qui compte. Donc voilà.
Alors souvent on dit dans le cinéma français que les héros non blancs ou les héroïnes non blanches ne sont pas vendeurs, et tu as choisi dans le casting d'avoir un casting essentiellement non blanc, et en plus c'est un casting qui porte le thème de l'identité noire. Et tout ça dans une comédie. Comment t'as fait pour abattre les barrières mentales habituelles? Parce qu'on te dit généralement que ça ne vend pas, que personne ne s'identifie,
ah oui,
etc.
Clair.
Comment t'as réussi à convaincre du fait que d'autres gens, que des gens, que déjà le public noir, t'es un public qui méritait d'avoir une identification, mais que ça pouvait intéresser au-delà?
Non, après, je pense que tout, franchement, tout ça, c'est... Alors, il y a eu des problèmes au début. Je me suis fait envoyer paître par 2-3 productions où ça m'a quand même un peu fait mal au cœur. Et après, c'est juste les rencontres avec les bonnes personnes. Et bon, c'est pas pour pour leur serrer les pompes, mais Gaumont, voilà, ils m'ont accueilli vraiment à bras ouverts. C'est, tout était simple. Je suis arrivé avec le truc. Ils ont dit, oh, mais c'est chambé, ça. Je sais pas, 2 mois après, je signais un contrat, j'écris. Ça dépend juste des rencontres. C'est pour ça que ce qu'il faut dire, c'est que finalement, pour ceux qui écoutent, s'ils ont des projets fous et ils pensent que c'est incroyable, qu'ils y arriveront pas, machin, tout ça, faut juste pas baisser les bras. Et c'est juste les rencontres qui font les événements, en fait. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Gaumont qui, franchement, je sais pas comment expliquer. Je suis arrivé, j'ai raconté le truc, les gens ont dit, ah ouais, chambé, on y va. Après, c'est peut-être aussi parce que le thème les intéressait, on était à la bonne époque du bon questionnement, j'en sais rien, mais je pense que c'est juste les bonnes personnes que j'ai rencontrées, quoi.
En même temps, toi JP, t'as jamais lâché l'affaire. Enfin, je veux dire, depuis le début de ta carrière.
Non,
parce
j'ai...
que je sais pas si les gens savent. Enfin, moi, je t'ai googlé quand Rokaya.
Ouais.
Parce que bon, j'étais pas dans ton cercle.
Ouais.
Et donc, j'ai vu que t'avais fait énormément de choses avant.
Ah bah oui.
Donc, la série Crénios pour Canal. Donc, en fait, t'as jamais lâché l'affaire. Et en même temps, t'es pas quelqu'un qui est extrêmement présent sur les réseaux. On
te voit
pas faire des,
des
choses. Donc, est-ce que toi, tu t'es nourri... Enfin, ça, c'est une question sur ton écriture. Est-ce que tu te nourris de ce qui se passe sur les réseaux? Est-ce que t'as Twitter?
Non,
est-ce que
les réseaux, tout ça, c'est pas mon
truc. Coupé.
Non. Moi, j'ai 3 gosses, frère. J'ai des trucs à faire. Il faut laver quelqu'un. Il faut aller chercher quelqu'un. Il faut l'habiller. Il faut le faire dormir. Donc, j'ai pas le réflexe des réseaux, tout ça, malheureusement. Il y en a plein qui me disent, ouais, tu devrais, non, mais j'y arrive pas, j'ai trop de gosses en fait. Donc.
je m'identifie à ce que tu viens de dire.
Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai pas lâché l'affaire, mais parce qu'il y a un seul truc qui m'a toujours guidé, c'est. Comment dire? C'est. Déjà, j'ai toujours été guidé par le bonheur. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à faire un truc qui me rend pas heureux, en fait. Donc, je me suis toujours écouté. J'ai toujours écouté le bonheur que j'avais envie de faire, la joie. C'est la joie qui m'a guidé et finalement aussi le message que j'avais. Et il y a aussi eu un grand déclic dans ma vie, c'est quand je suis arrivé à Canal+, où j'étais dans une émission du Before et je faisais une chronique qui s'appelait « C'est quoi les bails ?». D'ailleurs, j'avais interrogé Rokaya à l'époque.
Ouais. L'exposition Exhibit B.
Et en fait, quand je suis arrivé à Canal+, et que j'ai vu en fait que déjà dans l'immeuble où on était là, je sais pas, il devait avoir 150 personnes à peu près, j'étais le seul Renois, et que j'ai vu en fait que le fait d'être noir, c'est pas que ça leur faisait de l'effet, mais j'étais un peu là, tu vois, et je me suis dit mais c'est super d'être moi-même en fait, donc je vais me raccrocher à moi-même en fait pour faire tout ce que j'ai envie de faire. En fait, le fait de passer à la télé et dans un gros média et de voir que ma spécificité c'était ma puissance, quand j'ai compris ça, j'ai dit ils sont foutus, ils vont en manger du JP. Et là j'ai compris que finalement c'est un message aussi à lancer à tous ceux qui écoutent, c'est que finalement notre force c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on est. Faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre, faut pas essayer de faire passer un message de quelqu'un d'autre et tout. Ta vraie puissance, c'est toi-même, c'est ta vie, c'est ton vécu, c'est ta spécificité, et il faut t'appuyer sur ça. Et moi, j'ai gagné vraiment le combat parce que, bon, j'ai pas gagné, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai fait des petites choses, tout ça, parce que je me suis accepté moi-même en tant que noir, pauvre, tu vois, et j'ai accepté toutes mes failles, tous mes défauts, tous mes problèmes psychologiques, et c'est ça qui fait ma force.
Et là, on est à quelques semaines de la sortie du film, donc, qui a été reporté à cause de la crise sanitaire. Mmh. C'est quoi tes craintes là maintenant par rapport à l'accueil du public? Est-ce que tu peux dormir le soir sur tes 2 oreilles parce que
Non, vraiment, ça peut paraître incroyable, mais j'ai aucune crainte parce que du coup, comme j'ai fait le maximum du maximum, frérot, si ça marche pas, bah tant pis, mais en tout cas, moi, j'ai rien à me reprocher parce que j'ai pas spécifiquement de regrets sur le film. Alors, on aimerait bien que le plus de gens possible le voient parce que Je reçois des messages aussi sur les réseaux. Hier, j'ai reçu un message fou d'un gars qui m'a dit « Je serais content d'avoir vécu cette époque parce que j'aurais vu deux choses. J'aurais vu Harry Roselmack à TF1 et la sortie de ton film en tant que noir. » Le gars, il m'a sorti ça. J'ai dit « Mais calme-toi, frérot. »
Il y a un autre truc que j'ai observé aussi sur les réseaux. C'est que, tu vois, comme en fait, on est tellement habitué à voir des films qui sont caricaturaux sur les noirs qu'il y a des gens qui ont réagi à la bande-annonce, des gens noirs notamment, en disant « Oh non, encore un film qui caricature les noirs, etc. » Hyper, tu vois, craintif. Hein, des messages effrayés, etc. De gens qui, moi, je sais que j'ai même interagi avec des gens en leur disant « Attention, faut vraiment aller voir le film parce que pour le coup, il défend le contraire de ce que vous pensez. » Mais comment t'expliques ces réactions? Est-ce que ça te fait pas un peu peur, justement, que les gens se disent « Encore un noir qui ridiculise les noirs avec des personnages grotesques
?» Tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand Didier Deschamps fait sa liste des 23, on est les premiers à critiquer. On dit pourquoi il n'a pas mis Benzema, pourquoi il a mis Giroud, pourquoi Atem Ben Arfa n'a pas joué l'Euro, tout ça. Donc quand tu sors un truc, c'est normal que tu te fasses critiquer. Après que tu te fasses critiquer par des Noirs, je comprends les Noirs, parce qu'il n'y a tellement pas beaucoup de choses que du coup, ils sont très crispés, ils ont peur, on a souffert. On a souffert. Le cinéma français nous a fait souffrir. Donc, il faut comprendre cette crispation-là. Et moi, c'est pas que je m'en fous, mais j'en tiens pas compte parce que je me dis, il a le droit, il pense ce qu'il veut, c'est comme ça. Tu sors un truc, tu te fais critiquer, tu te fais insulter, c'est normal. Et finalement, quand ils regarderont le film, ils se feront leur avis, et qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas d'ailleurs, parce que c'est normal aussi de regarder le film et de dire « Non, moi j'aime pas, pourquoi le noir, à la deuxième minute, il a un t-shirt noir, Black Panther, je sais pas. » C'est normal, ça fait partie de la critique, il faut accepter ça. Je suis vacciné contre la critique, en fait. Je vais te donner une anecdote. J'avais fait un film en 2008 qui s'appelait Cramé. Oui. C'était mon premier film. Et je l'avais sorti en DVD. Et c'était en 2008. Et il y avait la bande-annonce qui était sortie sur Dailymotion à l'époque. Un des premiers commentaires, je vous jure, je rigole pas. Un des premiers commentaires, c'était « Celui qui a fait ce film, c'est un fils de pute. » Quand j'ai lu cette critique-là, en fait, tout a été clair dans ma tête. J'ai dit « Ah, mais en fait, les gens, ils sont là pour se défouler, en fait. »
Parce que là, c'est vraiment, c'est gratuit.
Et du coup, tout passe maintenant, il n'y a aucun problème.
Est-ce que c'est ce film qui est sorti en DVD que tu as retrouvé à la FNAC dans la section hip-hop ?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce film-là, ouais. C'était Cramé, mon tout premier film, ouais.
Et j'ai lu dans une interview, c'est pas la même qui disait que tu avais trouvé ce film dans une section musicale hip-hop, donc, qui disait, c'était une interview pour Anou Paré à l'époque de Crénios, qui disait « J'accepte tous les rôles car j'aime m'amuser, sauf les rôles qui dénigrent l'homme noir et la banlieue. »
Ouais, c'est vrai. En plus, là, quand la bande-annonce de mon film est sortie avant, au mois de mars, là-bas, j'ai reçu pas mal de propositions de rôles principaux que j'ai refusés, avec beaucoup d'argent. Parce que c'est vrai, hein, parce que en fait, finalement, je me vois pas faire des choses qui sont en contradiction avec moi-même. Tu vois,
parce que les rôles qu'on t'a proposés n'étaient pas.
Me correspondait pas spécifiquement. Et puis, je viens d'arriver un peu dans le game, tout ça. J'ai pas envie de me montrer partout. Je suis pas pressé. Je cours pas spécialement après l'argent. Bon, je cours un peu après l'argent. mais faire un film où tu vas entretenir le cliché de quelqu'un. Parce qu'être acteur, c'est ça, en fait. C'est être au service d'un propos. Donc, le réalisateur, là, je le connais pas. Il m'a envoyé un scénario. Je sais pas ce qu'il pense, tout ça. Je vais pas m'aligner comme ça sur son propos. Tu vois, ça se trouve dans son film. Il y a « Ouais, il est banania. Et tu veux du banania ?»
t'as pas envie de t'associer à ça.
Et est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui, en tant qu'acteur, ça, c'est souvent... Enfin, tu dis ça t'arrive souvent. Parce que même dans ton personnage que tu incarnes dans le film, il a ce questionnement.
Ah bah oui.
C'est un personnage qui est comédien aussi.
Oui, c'est un personnage. Ouais, c'est un personnage qui est comédien. Non, mais parce que, en fait, moi, comment dire, je suis pas, c'est grave ce que je vais dire, mais je suis pas spécialement comédien, tu vois. Je me ressens pas comme un comédien, en fait. Je me sens pas comme un acteur. Et les personnes les plus en souffrance que j'ai rencontrées dans ma vie, franchement, c'était les acteurs noirs. Mais les acteurs, les vrais acteurs, ceux qui sont acteurs et qui ont fait des cours d'acting et qui courent des castings, machin, tout ça. Quand je rencontrais ces gens-là, putain, je rencontrais des gens tellement en souffrance que je me disais, j'ai pas envie d'être acteur, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Et finalement, voilà,
t'as créé ton rôle.
Oui, j'ai créé mon rôle, en fait. Et je cours pas spécifiquement après les rôles des gens. J'interprète les rôles que j'ai envie de jouer. C'est un luxe, mais voilà.
Et tu as créé ta boîte de prod aussi,
oui,
avec Camille Moulonguet en, oui, 2008.
Oui.
Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'avoir sa propre structure pour,
oui,
maîtriser son propos et pour avoir ce genre justement,
ah ben,
de,
oui,
personnage? Tu,
oui,
penses que c'est,
oui,
indispensable?
C'est incroyablement indispensable. C'est-à-dire que finalement, ceux qui réussissent à faire des choses, c'est-à-dire les acteurs un petit peu connus, les noirs, tout ça, qui font un petit peu des choses, si on n'essaye pas de redistribuer la lumière que nous on a, ça ne sert à rien du tout. C'est-à-dire que si t'es arrivé là grâce à certaines personnes, et ben ton rôle à toi, c'est d'essayer de redistribuer derrière en faisant émerger d'autres gens. Et plus d'autres gens vont réaliser leur projet qu'on aura produit, et ben plus le cinéma sera divers et plus on acceptera ça et plus tout le monde gagne en fait. Ça sert à rien qu'il y ait un seul mec qui est une star et tout le monde est en galère. Donc finalement, moi, c'est comme ça que je vois la chose. En tout cas, pour moi, c'est importantissime d'avoir sa propre structure et de produire des choses librement pour pouvoir maîtriser le propos et surtout donner la parole à d'autres gens qui peut-être même sont plus talentueux que toi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut l'accepter. Nous, moi, je suis là parce que j'ai eu un petit peu de chance, j'ai rencontré les bonnes personnes, je me suis un petit peu débrouillé. Mais c'est sûr qu'il y a des gens beaucoup plus talentueux que moi qui sont là et qui ont droit à avoir la parole. Et si nous, on fait pas le maximum, je sais pas qui va faire.
Eh bien, merci, c'était super.
Ouais, vraiment, merci JP d'être venu nous avoir parlé de Tout Simplement Noir qui sort donc le 8 juillet.
Ouais, le 8 juillet, ouais.
Tu as réalisé avec John Wax.
Exactement, avec Johnny 9-4, mon gars.
Moi, je suis vraiment ravie qu'on ait eu cette conversation ici dans Kif Taras parce que je me suis retrouvée dans plein de choses. Je ne suis pas noire, mais je me suis retrouvée dans plein de choses dans ton film. Donc, je vous encourage les gens à aller soutenir et à aller rigoler en salle.
D'autant plus que c'est un des rares films où, en fait, on n'a pas de filtre blanc, en fait, pour.
Il n'y a pas de white gaze.
Voilà, exactement.
Ce que tu dis, ouais.
Et ça, c'est vraiment très rare parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tous les films qui veulent engager des questions sur les identités, etc., sont filtrés par un regard de personnes blanches.
Ouais.
Et du coup, on n'arrive pas vraiment à retranscrire l'expérience des personnes qui vivent le racisme au quotidien, quoi. Donc,
ouais,
toi, t'as vraiment réussi à faire ça.
Ah bah merci, c'est gentil.
N'hésitez pas à aller voir le film et à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux, même si JP n'ira pas, avec le hashtag.
On lui transmettra.
Kiftaras. Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou contactez-nous avec le hashtag Kiftaras ou le @kiftaras sur Twitter et sur Facebook.
Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Mathieu Thévenon. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Salut JP.
Salut,
salut
JP, merci.
Les filles, salut.
Merci, salut Grâce.
Salut Rokaya.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener Salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big.